dictionnaire de la sagesse ancienne. Cette émission présente les grandes idées fondamentales de la sagesse éternelle, sagesse ancienne qui comprend les traditions initiatiques du passé, mais aussi les enseignements ésotériques modernes. Et durant une heure, nous allons tenter de définir pour vous quelques mots-clés en rapport avec cette sagesse. Bonjour David.
Bonjour Olivier.
Il y a un mot, David, qu'on entend dans le langage courant, en fait. Hein. C'est le mot volonté. C'est en fin de notre dictionnaire, mais le mot volonté. Alors, on voudrait parler maintenant du... Qu'est-ce qu'on pourrait dire ?
Alors, dire déjà qu'on va l'utiliser et le définir dans le cadre des enseignements de la sagesse éternelle, de l'ésotérisme, pas dans le cadre psychologique courant. Dans le cadre psychologique courant, le mot volonté, c'est souvent affaire d'un désir intense. Hein, on désire en fait quelque chose intensément, on y met l'énergie, on met une force psychique dessus, mais le moteur de cette énergie n'est pas la volonté telle que on va l'entendre ici, mais plutôt donc, on a dit, quelque chose qui part de notre vie émotionnelle, de notre idéalisme. Donc, la volonté, au contraire, d'un point de vue spirituel, c'est une énergie de pouvoir. C'est quelque chose qui ne part pas donc d'un désir, mais vraiment d'une puissance intérieure qui contraint l'ensemble de la personnalité, voire de l'âme si c'est une volonté aussi spirituelle, parce que ça peut être une volonté personnelle ou spirituelle, mais qui contraint soi-même, voire les autres, son environnement, à plier sous une direction donnée, dans une direction donnée, pour des buts précis. Il y a toujours un dessein précis, et c'est, je dirais, la volonté par rapport au désir intense, c'est quelque chose de plus froid, de plus impersonnel. C'est sans émotion, en fait, alors que le désir intense, il est chargé d'une certaine affectivité. Mais la volonté, telle qu'elle est, c'est quelque chose de vraiment froid, parfois même cruel, sans affect, détaché. Il y a une énergie de détachement avec la volonté.
Est-ce qu'on peut dire qu'elle est plus susceptible d'être mise en œuvre que le désir ? Le désir peut rester désir éternellement, c'est-à-dire on rêve à quelque chose sans passer à l'action, alors que s'il y a volonté, il y a passage à l'action.
Alors, la volonté entraîne irrésistiblement, c'est vrai, une mise en mouvement d'énergie sur le plan physique, mais le désir aussi peut avoir ce rôle-là. Il y a des gens qui ont créé des choses par la force de leur idéalisme, et c'est pas forcément complètement dénué de pragmatisme.
Mais les deux choses sont peut-être pas toujours si séparées que ça aussi.
Alors, elles peuvent être mêlées, on peut avoir de l'idéalisme, on peut y joindre sa volonté personnelle ou spirituelle, il peut y avoir un idéalisme aussi spirituel. Quand on étudie les rayons, on a déjà parlé, Olivier, hein, des sept rayons d'énergie, des sept qualités spirituelles majeures, là on parle de deux rayons, de deux types d'énergie, la volonté pour le premier rayon et l'idéalisme pour le sixième rayon, et on les confond souvent. Donc, la volonté renvoie à un des trois aspects majeurs de Dieu, une des trois personnes de la Trinité, on pourrait dire en langage chrétien. Alors, la première personne de la Trinité, c'est l'aspect du Père, c'est justement l'aspect de la puissance, de la volonté, du pouvoir de Dieu. Donc, les gens qui font usage de volonté sont soit au niveau de leur personnalité, soit au niveau de leur âme, sous l'influence de ce premier rayon, de ce qui représente lui-même le premier aspect.
Et alors qu'il peut être créateur ou destructeur, j'imagine.
Voilà, donc tout dépend de la manière dont il est employé. Alors tout rayon, toute qualité utilisée en excès devient un défaut. Et mal employé, bien sûr, s'il y a deux façons de détruire, hein, On peut détruire pour un plus grand bien ou on peut détruire pour détruire, d'une façon névrotique, on pourrait dire, hein. Donc là, cette énergie-là de volonté porte en elle un élément de destruction parce que la volonté se ferait un chemin à travers tout, je dirais, et tout ce qui résiste peut être amené à être détruit pour un dessein particulier, pour un objectif particulier. On peut dire que pour le premier rayon, la fin justifie les moyens. Alors que si on prend l'idéalisme, eh bien, le sixième rayon, donc on l'a dit, il vient du deuxième rayon et du deuxième aspect, c'est l'amour de Dieu, l'amour sagesse. Et on peut dire que l'idéalisme, c'est en quelque sorte un amour qui est sélectif, un amour qui est dirigé vers un but. Donc quand on aime quelque chose, quand on dirige son amour vers un objet particulier, un but quelconque, eh ben, on peut dire qu'on utilise l'amour sélectif ou l'idéalisme. Et c'est pour ça que voilà, je disais qu'il y avait une part ici d'affect, de sensibilité dans le désir, l'idéalisme, qui est confondu avec la volonté qui, elle, est beaucoup plus froide.
Est-ce qu'on pourrait dire que je vais donner des exemples, c'est peut-être très bête, hein, David, mais un terroriste qui est capable de se sacrifier sa vie, il est dans l'idéalisme, alors qu'un grand chef d'État, mettons, qui va faire face à une guerre, est dans la volonté.
Alors, c'est pas forcément la fonction qui va nous indiquer un peu la nature des énergies en place. Mais si on partait du principe que le religieux le fait pour un idéal religieux, en fonction de la compréhension qu'il a de sa religion, de la guerre sainte à mettre en place ou pas, oui, là, on serait dans le cas d'un désir spirituel, on va dire, hein, en tout cas qui se veut religieux. Et là, donc, on est dans l'énergie du sixième rayon, l'idéalisme, et qui peut donner une grande force de persuasion, d'action, de sacrifice et autres. Alors que lorsque l'on est dans l'application froide d'un principe supérieur, coûte que coûte, si par exemple c'est défendre son pays, et encore la défendre son pays, on peut être militaire et très idéaliste, mais dans l'exemple que tu donnes, je pense à quelqu'un comme Churchill, par exemple. Oui, ça serait quelqu'un qui rentre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Hein, le grand dirigeant anglais rentre dans le type volonté. Il a utilisé sa volonté spirituelle, personnelle, pour contrecarrer l'offensive nazie. C'était pas un idéal. C'était, il fallait le faire. Voilà, il a engagé ses forces, son pays, dans cette action-là. Donc la volonté, elle est aussi, elle s'accompagne d'un détachement. C'est pour ça que je disais que c'était froid. Lorsqu'on est sous l'influence de la volonté, souvent les types volontaires sont détachés et ne sont pas, sont assez isolés. Ils ne sont pas vraiment liés, affectivement à leur entourage. Ils peuvent même paraître froids, antipathiques, distants, seuls, isolés. Alors que les autres types fonctionnent plus par amitié et inimitié. Ça veut dire ils peuvent donc les types dévoués, idéalistes, ont des grands amis et des grands ennemis, je dirais. Mais ils sont pas neutres, voilà. C'est ça l'idée, c'est qu'ils sont chauds, on pourrait dire, pour faire image.
Ils sont plus personnels, quoi, oui, plus à recherche de liens personnels.
Voilà, ils peuvent avoir des liens très très forts. Il faut comprendre que c'est le sixième rayon dans l'enseignement donc des rayons et le reflet du deuxième rayon. Donc c'est un amour mais qui est sélectif. Donc amour sélectif dit aussi une désamour ou haine ou répulsion. Donc il y a la fameuse phrase de Jésus très mal comprise mais qu'on peut comprendre ici dans ce cadre-là. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Ça, c'est une vision un petit peu sixième rayon. Idéalisme, désir. Donc, on va avoir des amis très proches qu'on va adorer, aimer, pour qui on va être prêt à se sacrifier beaucoup, et on va avoir au contraire des ennemis. Mais pour le premier rayon, pour le type volonté, il n'y a pas cette dualité-là. On voit qu'on n'est pas dans des objets d'amour sélectionnés. On n'est pas vers des dans un schéma d'attirance ou de répulsion, il y a vraiment un axe tout droit, c'est vraiment une flèche et la personne ne fonctionne pas en fonction des autres personnes, mais en fonction du but, proprement dit, du dessin. On parle aussi de dessin. Alors on peut citer Olivier des grands personnages qui représentaient ce type volonté. Alors on a
Tu
tous les grands
parlais,
conquérants, hein.
ouais, tu parlais des gens froids et de pouvoir, et c'est vraiment ce qu'on attribue à De Gaulle, une personne assez froide et, en tant que personne, hein, et tout axée sur le dessin qu'elle se fixe, quoi.
Voilà, De Gaulle. Alors pendant la guerre, on l'a dit Churchill, Roosevelt, mais on a les grands conquérants comme Alexandre le Grand, Gengis Khan, César, Mao Tse-tung, Tito. Enfin voilà, et on voit un petit peu.
C'est des gens qui connaissent pas trop la peur, alors.
Alors voilà, justement, vu qu'on n'est pas sur la ligne 2-4-6, comme on dit, sur la ligne sensibilité, je disais ils sont froids parce qu'il n'y a pas. Ce n'est pas la volonté pure, n'est pas motivée par de la sensibilité. Donc, qui dit sensibilité dit aussi peur. Hein, le fait de ressentir, c'est aussi le fait de s'exposer à la peur. Donc non, il y a vraiment absence de peur, il y a même souvent témérité, grand courage. Et il y a une forme de cruauté qui vient aussi du fait d'être
Peu sensible,
insensible.
oui.
Voilà. Donc vraiment, on voit que la volonté, c'est un pouvoir en soi. C'est une puissance que la personne a. Alors, soit, je disais, au niveau de sa personnalité, soit c'est un pouvoir spirituel. Et c'est intéressant de voir qu'on a souvent tendance à voir uniquement Dieu en termes d'amour, d'amour-sagesse. Et c'est-à-dire qu'en termes chrétiens, c'est comme si on voyait beaucoup Dieu à travers l'image du Fils. Mais on voit moins Dieu à travers l'image du Père, qui est donc la puissance, la volonté, ou alors moins Dieu à travers l'image de la Mère, qui est l'aspect création, l'aspect intelligence divine. Mais Dieu, dans l'ésotérisme, regroupe ces trois aspects-là simultanément.
Et tu parlais de cruauté, donc ça me faisait penser un peu à la Chine et à Mao ou aux grands dirigeants chinois qui, enfin, de notre point de vue d'occidentaux, peuvent paraître très très cruels. Est-ce que là-bas ils sont, est-ce qu'ils ont cet aspect volonté qui serait plus développé que chez nous?
À mon avis, oui, ils l'ont. Si on se rend compte, par exemple, dans les arts martiaux, dans les entraînements auxquels peuvent se soumettre les Chinois, leur endurance, leur résistance à l'effort, de plein de manières, on peut voir la dureté naturelle, je dirais, de l'esprit chinois. Et les grandes révolutions, par exemple, en Chine, ça a toujours été, que ce soit avec Mao ou alors en dehors, c'est un problème typiquement chinois. Ce sont des grands mouvements de violence collective, je dirais, hein. C'est un pays qui est, dit-on, avec une âme de premier rayon. Donc, les pays qui ont du premier rayon dans leur âme ou dans leur personnalité souvent démontrent cette forme de dureté. Mais quand vous êtes sous cette influence-là, vous dites pas je suis dur.
Oui, c'est pas vécu comme
Voilà.
ça, de leur point de
C'est pas
vue.
vécu comme ça. C'est vécu souvent à travers les yeux des types sensibles, ceux qui sont plus sous l'influence, on a dit, des autres rayons féminins, donc père, c'est-à-dire les rayons 2, amour, 4, beauté, harmonie, ou 6, même idéalisme.
Qui peut être un peu
Volonté,
mystique, oui, et donc plus doux, hein.
voilà, donc on dit dans les rayons que les rayons 1, 3, 5, 7, les rayons pairs, sont plus froids. Alors soit ils sont plus froids parce qu'ils sont sur le type volonté, comme le premier ou le septième rayon, le rayon qui organise, structure, ou alors plus froids parce qu'ils sont plus mentaux, comme le troisième rayon, l'intelligence abstraite, ou le cinquième rayon, l'intelligence concrète. Donc on a vraiment trois grandes lignes d'énergie. Et le type volonté est la ligne d'énergie la moins connue, la moins développée et la moins comprise en fait. Hein.
Alors David, je sais pas si tu as autre chose à dire sur ce thème ou sans ça je te pose une question finale que je t'ai déjà posée quelques fois dans ces missions, c'est que qu'est-ce qu'on peut en faire pratiquement de cette connaissance?
Je crois qu'il faut déjà se dire que tout le monde n'est pas dans son essence même, dans sa nature identique. Et que ces types-là, par exemple volonté, puissance, pouvoir, sont pas forcément des diables. Sont pas forcément des démons. Ce sont des gens qui représentent une partie de l'humanité qui vibre ou qui ont une couleur différente. Et je crois qu'il faut s'aider de cette connaissance, de cette diversité, pour vraiment créer l'unité. Il faut accepter la diversité. Et souvent, on insiste sur l'unité et on parle de diversité, mais on n'accepte pas forcément la nature de la diversité. Donc voilà, se dire qu'il y a des gens qui sont pas forcément aimants, ni même très intelligents, mais qui sont puissants. Certains sont aimants, mais pas forcément puissants ou intelligents. Et bien sûr, certains sont de prime abord intelligents, moins aimants, moins puissants. Enfin, on est en fait un tiercé en quelque sorte de ces trois énergies. Chaque personne pourrait mettre en avant, au niveau où elle en est et ce qu'elle a compris d'elle-même, mettre en avant ce tiercé. Qu'est-ce que je mets en tête? Est-ce que je suis d'abord aimant, d'abord intelligent, puissant? Lequel je mets en premier, lequel en deuxième, lequel en troisième? Ça pourrait être un petit jeu intéressant et le faire aussi avec ses proches, ses amis, et on pourrait se rendre compte que sous son toit, par exemple, on peut avoir des gens que l'on croit être comme nous ou que l'on désire voir être comme nous, mais qui sont fondamentalement différents. Et pour moi, c'est un moyen de développer la tolérance.
Écoutez le dictionnaire de la sagesse ancienne, David Gaulois et Olivier Danès. David, allez, je repars au début du dictionnaire et je tombe sur le mot ajna. Ajna, c'est un nom qu'on entend, qui devient courant en France, hein. Oh, il y a 30 ans, quand on parlait de d'ajna, on passait pour des fous. Aujourd'hui, quand même, on voit ça même à la télévision. L'ajna, donc c'est un centre dans le corps éthérique de la personne.
Voilà, alors il faut le dire, c'est un mot sanskrit. Il est très difficile à prononcer, même pour les Indiens. Normalement, ça se prononce Ajna. C'est-à-dire le J est un J et le N est un Ñ. Et c'est tellement difficile que les Indiens eux-mêmes maintenant ont tendance à prononcer ces noms en Gne, comme le mot gnose. C'est intéressant parce que ça a la même racine. En sanskrit, c'est une racine qui veut dire soumettre, contrôler. Donc on a déjà un peu la définition du nom donné à ce centre du front, hein, qui est entre les deux sourcils, un centre,
Un chakra.
une spirale d'énergie, un tourbillon d'énergie, qui se trouve donc entre les deux sourcils. On pense aux Indiens qui mettent leurs petites pastilles de couleur là, entre le front, pour rappeler la présence de ce centre. Donc c'est un centre de contrôle.
Donc c'est un chakra, ça veut dire que c'est une sorte de vortex d'énergie qui est constitué de matière, on va dire, de
subtil
ou d'énergie, matière et énergie, c'est la même chose, subtil, c'est-à-dire moins dense encore que du gaz. Donc c'est de la matière qu'on appelle la matière éthérique.
Voilà, le prana, le chi en Chine, le ki japonais, voilà, c'est fait de cette substance éthérée, comme tu dis.
Donc en fait, ça veut dire qu'autour du corps physique et dans, entremêlé dans notre corps physique, il existe un corps qu'on appelle éthérique, et bon, qui est bien connu de la médecine chinoise, et c'est dans cette, dans ce corps-là que, enfin, c'est de ce corps-là que relève les différents chakras, dont le chakra Ajna, donc entre les sourcils. Donc voilà. C'est le centre directeur, c'est-à-dire que c'est si on se focalise, si on focalise sur son attention sur ce centre-là, on va pouvoir diriger sa vie.
Alors normalement, bon déjà, précisons que les chakras servent de lien entre le monde purement psychique et le corps physique. C'est-à-dire si on a des maladies ou des réactions psychosomatiques, c'est grâce à ces chakras, hein, qui c'est comme s'ils transformaient une énergie psychique en quelque chose de matériel. On pense à un déclenchement hormonal, un courant électrique au niveau du système nerveux. Donc ce sont les chakras qui font cela.
Donc par exemple, si j'ai une peur, donc c'est quelque chose d'émotionnel. Si j'ai une grande peur à un moment. Je sais pas, par exemple, je suis sur la route et j'échappe à un accident, j'ai un grand mouvement intérieur de peur que je peux ressentir comme étant un mouvement dans mon corps émotionnel. Eh bien, ça peut avoir des conséquences physiques. Ça a des conséquences physiques. Par exemple, on peut se mettre à transpirer ou quelque chose comme ça. Et c'est grâce au chakra et donc au corps énergétique, au corps éthérique, que cet état émotionnel va pouvoir influer sur le physique.
Tout à fait, et là, dans l'exemple que tu donnes, la vie émotionnelle s'exprime principalement par un autre chakra qui est celui du plexus solaire. Alors, il peut agir à son niveau, ou il peut interagir sur le cœur en accélérant le cœur, ou au niveau du système urogénital, je sais pas si on se met à uriner, ou alors les jambes tremblent. Il peut agir à différents niveaux du corps, mais le centre, le focus se fait par ce chakra-là. Donc, le plexus solaire dans la région hypogastrique. Hein. Donc, c'est intéressant de voir que les chakras correspondent à des plexus nerveux dans le corps. Et le centre du front, le plus gros plexus nerveux dans le corps, c'est le cerveau lui-même, qui est un tissage de milliards de neurones. Mais c'est un énorme plexus, en fait. Et donc, le centre Ajna, le centre du front, est celui qui agit sur le cerveau et la partie du cerveau qui est le cortex préfrontal. Et on sait au niveau de la neurophysiologie que tous les actes conscients font intervenir cette partie du cerveau. C'est-à-dire que quand on fait des choses inconscientes, on dit qu'on utilise la partie sous-corticale, c'est-à-dire sous le cortex cérébral, hein, la partie la plus profonde, on fait des actes automatiques. Mais dès qu'on essaye d'être conscient de quoi que ce soit, cette partie du cerveau s'allume en quelque sorte. Donc c'est intéressant de voir que c'est notre centre de conscience.
D'accord, donc c'est ça que... Donc on disait par exemple une peur, ça active le chakra plexus, alors qu'une activité de conscience active le chakra Ajna automatiquement.
Voilà, dès qu'on essaye d'être conscient alors de ses gestes, de ses mots, même si on essaie d'être conscient de son émotion, c'est le centre du front qui regarde le plexus solaire par exemple. Hein. C'est-à-dire, et c'est relié à notre vie mentale. Hein, on parle même, pour être plus précis, on dit que c'est le niveau de la personnalité, le centre du front. C'est juste avant l'âme. L'âme est reliée au septième et dernier chakra qui se trouve sur le sommet de la tête, qu'on appelle le centre de la couronne ou le centre coronal. Le lotus a 1000 pétales, dit-on dans la tradition indienne. Et donc l'âme agit par le sommet de la tête. Et juste avant, il y a ce centre du front, qui est un centre qui intègre toute la personnalité. Ça veut dire que ce sixième centre, il intègre les cinq centres, les cinq chakras qui se trouvent le long de l'épine dorsale. Hein, de la gorge jusqu'à la base. Hein. Donc on peut les citer peut-être. Hein.
Ce qu'on appelle les chakras majeurs. Hein.
Voilà, on parle, quand on parle des sept, là, on parle des chakras majeurs. Donc le front contrôle les chakras en dessous, c'est-à-dire la gorge, le cœur, le plexus solaire, l'abdomen et la base.
Parce qu'il
Alors c'est
existe des chakras mineurs, par exemple au centre des paumes des mains, enfin, quantité de chakras mineurs, oui.
voilà, il y en a plein, même certains organes qui se trouvent dans le thorax aussi. Mais voilà, ces chakras sont majeurs, c'est-à-dire qu'ils contrôlent l'ensemble du système.
Alors, est-ce que c'est. On dit. Je sais qu'il y a certaines formes de méditation, par exemple, qui consistent à focaliser son attention sur le centre ajna, justement. Est-ce que c'est quelque chose qui est recommandé, qu'on peut faire?
Alors tout à fait, s'il y a un chakra à connaître et un chakra sur lequel il est préférable de se concentrer, c'est ce chakra-là. Parce que si l'auditeur fait l'expérience, dès qu'il va essayer de placer sa conscience, comme si il avait des yeux intérieurs, hein, que ses yeux intérieurs, il les mettait entre les deux sourcils au niveau du front, il va sentir tout de suite qu'il se concentre. Alors j'aime bien le mot concentré parce qu'il y a con avec et centré. C'est-à-dire on se centre avec quelque chose, on se centre autour de quelque chose. Et donc ce chakra permet d'intégrer dans un tout la vie psychique du sujet. C'est-à-dire sa vie, tout ce qu'on sent au niveau physique, nos sensations, nos émotions, nos pensées. On peut concentrer tout ça, unifier tout ça, intégrer tout ça par ce centre-là. Donc il est vraiment très important. On peut se concentrer dessus, alors pas d'une façon violente, mais plutôt régulière, à plusieurs moments de la journée. Si on a par exemple à parler devant plein de gens, l'auditeur qui nous écoute peut vraiment faire cette expérience. Essayez ça, concentrez-vous, mettez-vous au front. Quand on a quelque chose qui va soulever des émotions, on peut se préparer, se mettre au front. Quand on a besoin de se concentrer, quand on a besoin d'être présent, de réaliser une œuvre d'art, peu importe. Ça sera utile dans, je dirais, tous les domaines de la vie. Alors
Donc
c'est intéressant.
se concentrer, ça veut dire comment dire, focaliser son attention là, ça veut dire regarder comme si on regardait intérieurement cet endroit-là, hein, comme tu le disais,
Oui.
et en même temps ça nous permet de nous détacher
Des
et en même
réactions. Des réactions qui vont. Par exemple, les réactions émotionnelles, si on regarde son corps, elles naissent toujours en dessous du front. Alors elles peuvent perturber le front, la pensée, et on dit, oh là là, j'ai mon mental qui n'arrête pas de travailler, mais c'est pas lié à l'activité du front, c'est lié au centre inférieur et notamment le plexus solaire qui agite les autres chakras. Mais si on tire, on monte la conscience au niveau du front et qu'on la maintient, on va harmoniser tous les autres chakras sur la note clé, le la, en quelque sorte, du front. Alors c'est intéressant de voir que ça se vérifie au niveau de la physiologie. C'est-à-dire que chaque centre est contrôlé par une glande endocrine. Enfin, chaque centre contrôle plutôt une glande endocrine, et la glande qui correspond au front, c'est l'hypophyse. Et c'est très intéressant parce qu'on sait que l'hypophyse est la glande orchestre, chef d'orchestre. On dit que c'est la glande qui contrôle la thyroïde pour la gorge, le thymus pour le cœur, le pancréas et on pourrait même allier aussi au niveau du plexus la vésicule biliaire, qui est une sorte de glande. Pour l'abdomen, c'est relié au centre sexuel, ce sont les gonades. Et les surrénales sont reliées au centre de la base. Eh bien, on sait que c'est la glande la plus raffinée, avant bien sûr l'épiphyse, hein, qui se trouve derrière le chiasma optique, hein, vers l'arrière de la tête, et qui est reliée, elle, au centre coronal, au sommet de la tête. Donc cette glande hypophyse, c'est vraiment l'intermédiaire, je dirais, entre la glande épiphyse, hein, donc le centre de la couronne, et toute la vie végétative qui se trouve sous l'hypophyse. Donc c'est elle qui gère, qui contrôle. Et on retrouve bien encore l'appellation du centre ajnien, donc le centre ajna, le centre du front, le chakra qui est relié à l'avant du cerveau.
Et David aussi, beaucoup de gens parlent du troisième œil, comme si en évoquant que ça serait la même chose que que le centre ajna.
Alors, en effet, ce n'est pas la même chose, mais c'est confondu. Le centre ajna, le centre du front, c'est un chakra, alors que le troisième œil n'est pas un chakra, c'est un état. C'est un état qui correspond à un état de surconscience et avec une intense lumière qui accompagne toujours les hauts états de conscience, parce que la conscience et la lumière, c'est-à-dire l'énergie, sont intimement liés. Et cet état est créé lorsque tout est aligné, tous les chakras qui se trouvent dans la tête sont alignés. Alors quand je dis tous les chakras dans la tête, on n'a parlé que de deux chakras, mais il y en a sept, hein. Il y a le centre du front, il y a le centre de la couronne, il y en a un autre qui se trouve derrière la tête, et il y en a celui qui se trouve derrière la tête au niveau de l'occiput correspond à la gorge, et pour les quatre autres centres sous le corps, enfin sous la gorge, cœur, plexus, abdomen et base, ils ont une réplique dans la tête. Et c'est
Une
intéressant parce que
correspondance, ouais.
voilà, une correspondance supérieure. Et d'un point de vue ésotérique, on dit même que les chakras majeurs, ce sont ceux de la tête. C'est sept de la tête et pas les cinq en dessous. Donc lorsque tous ces chakras dans la tête sont unis entre eux, et là le centre du front joue un rôle très important, il se crée cet état de surconscience et cette lumière qui rayonne dans toute la tête, et pas seulement par le centre du front. Ça crée comme un rayonnement qui fait penser aux auras des saints chrétiens ou des bouddhas qu'on représente avec ce halo de lumière tout autour de la tête. Et ça, c'est l'état du troisième œil. C'est un état de clairvoyance supérieure, de lumière intense dans la tête.
Donc ça correspond à une élévation du taux vibratoire de ces différents chakras alors.
Voilà, c'est-à-dire que tous les chakras qui se trouvent le long de l'épine dorsale sont contrôlés par leur homologue supérieur dans la tête. Et c'est ce qui se passe en fait quand on médite. Quand l'âme prend possession, je dirais, du cerveau par le haut de la tête, l'âme fusionne tous les centres dans la tête qui, eux, contrôlent les autres chakras. C'est-à-dire les cinq chakras de la gorge jusqu'à la base et bien sûr tous les autres chakras mineurs. Et le phénomène de l'aura, si on pouvait l'observer, on verrait une lumière qui arrive dans la tête, qui rayonne. Comme un point d'impact dans la tête qui rayonne et après qui se répand dans toute l'aura, c'est-à-dire tout autour du sujet. Mais la lumière émane principalement de la tête et cette lumière spirituelle, c'est ce qu'on appelle l'état du troisième œil. C'est-à-dire c'est comme si on avait un troisième œil, c'est l'œil spirituel, qui est au cœur du cerveau d'ailleurs, qui n'est pas au niveau du front, c'est à l'intérieur, dans le cœur du cerveau. On dit, les scientifiques pensent que la région diencéphalique est le centre de notre conscience. Profonde, et c'est en fait le siège de l'âme dans le cerveau, hein. C'est dans le cœur du cerveau, et il y a cet état qui irradie, qui s'expand.
Et donc, à ce moment-là, la personne devient quoi? Clairvoyante? Elle voit les mondes subtils? Qu'est-ce qui se passe? Une personne qui a éveillé ce troisième œil?
Alors, ce troisième œil peut créer divers états en nous. Alors, ça peut se manifester par une réelle clairvoyance subtile, des mondes subtils, des énergies, mais c'est surtout une forme d'intuition, de télépathie, d'état de conscience où on touche à la racine des choses, des êtres aussi. On a l'impression d'être en lien avec cette divinité que l'on sent omniprésente en nous, autour de nous, dans les gens, dans les animaux, dans la nature, dans le monde. D'où les grands textes mystiques qui font état de ces hauts niveaux de conscience. Ça ne peut en tout cas s'atteindre que par un état méditatif et pas par une technique respiratoire, physique ou autre. C'est vraiment lorsque la conscience a réussi, la conscience du front, je dirais, lorsqu'on a réussi à vraiment s'unir avec les plans de conscience supérieurs, que ces plans de conscience descendent en quelque sorte dans la tête.
Eh bien, vous écoutez toujours le dictionnaire de la sagesse ancienne. Alors, nous avons parlé de d'ajna et nous avons parlé de volonté. Et maintenant, nous voudrions vous parler d'un thème un peu barbare. Ça, c'est vraiment du jargon. C'est le mot adombrement. Adombrement. Moi, j'ai regardé dans le dictionnaire. Ça voudrait dire couvrir de son ombre.
Voilà, c'est un terme qu'on retrouve dans la Bible. Lorsque l'on dit, par exemple, que le Saint-Esprit adombre, couvre Marie de son ombre. Hein, c'est un très beau terme. En anglais, c'est to overshadow, hein, couvrir de son ombre. Et ça renvoie à l'idée de l'ange protecteur, des ailes, qui dans le dos nous couvre, nous protège, nous inspire. C'est lié en fait à tout le thème de la descente du Saint-Esprit qui représente l'inspiration divine en fait. Hein. Donc l'adombrement, c'est le fait d'être soumis à une conscience et une énergie supérieure, donc spirituelle forcément, qui va inspirer le disciple, on va l'appeler comme ça, hein, le disciple. Donc le disciple, si on est disciple, c'est disciple d'un maître, donc c'est un maître en fait, qui va
Un maître de
inspirer
sagesse.
un maître de sagesse, donc. Une entité spirituelle évoluée qui coopère avec son disciple, qui l'utilise comme une fenêtre sur le monde et qui envoie à travers lui des énergies si besoin, et en tout cas qui l'inspire dans son œuvre, dans son travail pour le monde. Donc c'est ça l'adombrement, à ne pas confondre avec l'adoubement des chevaliers. Hein, le fameux signe, le cérémonial avec l'épée, c'est bien le terme adombrement, qui, il ne faut pas confondre aussi, il ne doit pas être confondu avec la médiumnité. Alors, c'est intéressant parce qu'on a parlé avant du centre ajna. Dans la médiumnité, le centre ajna est comme déconnecté et l'entité rentre, l'entité qu'on
Il parle
contacte,
au médium, ouais.
voilà, un mort ou enfin, l'âme d'un mort ou. On parle parfois même de coqs, de corps subtils qui errent sur les plans astraux et qui contactent le médium, des formes pensées. Mais en tout cas, cette énergie-là contacte le médium, rentre dans lui, car elles sont attirées par son plexus solaire, donc par son corps émotionnel. Donc le médium perd plus ou moins conscience. Parfois il reste conscient, mais sa conscience est déjà altérée, jusqu'à une perte totale de conscience où l'entité utilise entièrement le corps du médium. Là, l'adombrement, c'est pas du tout ça. La conscience du sujet, donc son centre du front, participe pleinement, et au contraire, il étire et il monte sa conscience pour venir lui-même s'unir au plan supérieur de conscience, qui va le mettre en contact avec son maître. Donc l'adombrement, c'est le terme technique qui explique la relation entre un maître et son disciple.
Donc le disciple a déjà un certain niveau de conscience pour arriver à faire ça.
Voilà, il faut minimum qu'il ait sa conscience placée sur le plan mental dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire, c'est plus quelqu'un qui vit sur le plan émotionnel. Sa conscience est au minimum placée sur le plan mental. On parle de polarisation mentale, ou carrément, elle est en permanence sur le plan spirituel. On parle de polarisation spirituelle de la conscience. Donc, c'est pas donné à tout le monde d'être adombré par un maître, alors que tout le monde peut rentrer en transe, devenir un médium ou un channel. C'est le terme moderne, hein, anglais, ça veut dire canal. Donc là, c'est, on parle pas vraiment de la même chose, on n'est pas du tout dans le même registre, alors que c'est constamment confondu en fait. Donc l'adombrement nécessite un entraînement pour le disciple, un entraînement à la méditation. Et c'est pas la même chose non plus, c'est différent de l'impression mentale. Parfois, les maîtres déposent des idées dans le mental de l'humanité ou dans le mental d'un groupe de disciples ou d'un disciple même en particulier, mais il n'est pas pour autant adombré. L'adombré a forcément une activité consciente. Il sait qu'il est adombré, c'est vraiment deux consciences qui fusionnent, donc ça demande une coopération de la part des deux. Du maître vers son disciple, mais aussi du disciple vers son maître. Alors Olivier, on a un exemple avec Benjamin Crème. C'est
Oui,
quel...
Benjamin, oui, qui est donc un auteur britannique qui a été entraîné, comme tu disais, hein, je crois au début, entraîné pour pouvoir être adombré. c'est-à-dire pour pouvoir servir de fenêtre sur le monde, on va dire, pour un maître de sagesse, qui va ainsi pouvoir enseigner, guérir, voir ce qui se passe dans le monde, grâce à l'intermédiaire de cet initié, en fait, hein.
Alors Benjamin, oui, je disais
Oui.
Benjamin Krem s'inscrit dans une lignée, Olivier. Il y a avant lui, il y avait Alice Bailey qui a été pareillement entraînée et donc adombrée. On en parle souvent parce que on fait souvent référence à ses ouvrages, à son enseignement. Elena Horitch, Madame Blavatsky et d'autres, bien sûr, pas seulement parfois dans le domaine. Je dirais de la politique, ça peut être le domaine de l'art, de la science. Il y a aussi, bien sûr, des cas aussi similaires de gens qui ont été inspirés à Adombré, mais c'est plus souvent de l'impression mentale ou spirituelle. Mais l'adombrement, il faut vraiment comprendre qu'il y a quelque chose qui dure et c'est pas la même chose que de croire que ces idées géniales viennent de nous, par exemple, sans être conscient qu'elles viennent d'un maître. Dans l'adombrement, il y a une participation consciente. On sait
Il y a
que...
un autre cas, David, c'est celui de Krishnamurti, hein.
Voilà.
Donc ça, lui, Krishnamurti est un sage, un philosophe de l'Inde du XXe siècle, et qui a aussi été entraîné pour être adombré et qui, à certains moments, délivrait un enseignement qui venait d'un maître de sagesse.
Il faut vraiment comprendre que dans l'adombrement, le disciple reste complètement conscient, mais il est pleinement conscient qu'il y a aussi une entité, une force, enfin une énergie bien plus puissante que lui qui l'habite momentanément. Ça peut durer quelques secondes, quelques minutes, quelques heures, quelques jours, parfois ça dure des années, et qui l'utilise. Et c'est pas comme une impression spirituelle, je disais, où on dépose un germe hein, dans le mental d'un disciple, par exemple. Là, il y a vraiment
Il y a
un...
deux entités vraiment, quoi.
Voilà,
Il y a...
il y a vraiment dans un même corps, parfois deux entités, ou parfois il arrive même que le disciple laisse volontairement, consciemment, son corps au maître. Mais c'est pas de la
Oui, pendant un
transe.
certain. Ouais.
On
Alors,
a...
il y a le cas de Jésus aussi, de
Voilà.
Jésus et du Christ. La différence entre Jésus et le Christ serait celle-là.
C'est la différence, en tout cas, qui est faite dans les enseignements de la sagesse ancienne. C'est-à-dire la différence entre, comme tu dis, Jésus l'initié et le Christ qui l'a adombré. Ça a commencé, dit-on, vers 12 ans, et puis on a vraiment les 3 dernières années de sa vie où il y a une fusion complète des consciences, où Jésus devient Jésus-Christ. On a aussi l'exemple avec le prince Shakyamuni et le Bouddha. En fait, tout au long de l'histoire, il y a constamment eu des instructeurs spirituels qui étaient des fenêtres, des véhicules pour des grandes consciences, des maîtres qui utilisaient ces grands initiés. Et il y avait une fusion donc des consciences, des énergies, et cette fusion est responsable aussi de l'impact mondial qu'ont eu ces gens. Hein, c'est pas seulement s'il y avait eu que ces seuls disciples, peut-être n'aurait-il pas eu autant d'impact, mais cet impact est la conséquence de cette grande libération spirituelle, cette libération d'énergie qui est faite.
Oui, parce que le maître, quand il enseigne à travers une personne qui l'adombre, va non seulement dire des paroles, mais va aussi envoyer de l'énergie. Donc c'est beaucoup plus fort. Ça a un impact, bon, qui n'est
Voilà.
pas très conscient, hein, chez les gens, mais qui est bien plus important.
Si on pouvait enregistrer ça avec des appareils, on verrait voilà que c'est exponentiel, qu'il y a tout à coup à certains moments. Alors ceux qui ont fréquenté aussi ces gens-là voient qu'à un certain moment la voix peut un petit peu changer, même si c'est toujours la voix du disciple, mais elle se change parce qu'elle se modifie sous l'impact de l'adombrement, le regard, les gestes,
Mais ça,
puis
on a ça aussi dans la transe, hein,
C'est
David.
vrai, c'est vrai. L'énergie qui en émane. La différence, la grande différence, c'est que si on est sensible à l'énergie, on sentira que de la transe émane une énergie issue de l'astral, du plan astral supérieur, même qui peut être belle et douce, hein, alors que par un adombrement, on a toujours des énergies qui sont beaucoup plus électriques, qui sont beaucoup plus froides, je dirais, beaucoup plus subtiles et élevées en termes,
Impersonnel.
voilà, impersonnels également.
Dictionnaire de sagesse ancienne. Dernier mot pour aujourd'hui, ou expression plutôt, David, c'est l'expression « mère divine ». La mère divine. Beaucoup de gens qui fréquentent des sages au féminin, des femmes indiennes de grande envergure, on va dire, même en France, hein, disent qu'elles sont des incarnations de la mère divine.
Alors c'est intéressant parce qu'on a déjà un petit peu évoqué la chose tout à l'heure quand on parlait de l'aspect volonté. Tu te souviens, Olivier, on parlait de la Trinité telle qu'on l'anthropomorphise, je dirais, en langage chrétien, hein, le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui est en fait la Mère divine. Hein. C'est intéressant de savoir que le mot hébreu pour esprit, c'est un mot féminin à la base. Hein. Donc le Saint-Esprit, c'est vraiment l'énergie de la Mère divine. Donc on parle là du troisième aspect de Dieu. Donc qui vient après le premier aspect, celui du Père, de la volonté, de la puissance, du pouvoir. Le deuxième aspect, christique, celui du Fils, de l'amour, de la sagesse. Amour qui représente le Christ, en Orient la sagesse c'est le Bouddha. Et là, c'est la Mère divine, en Inde on dirait la Shakti. On dirait Tara, tous les mots qui représentent l'aspect féminin de la création. Alors la mère divine, c'est la mère du monde, c'est donc on dit la Shakti, c'est l'aspect de Dieu qui permet la création. On pourrait l'associer dans la Trinité hindoue, Shiva, Vishnu, Brahma. Brahma serait l'aspect ici de la mère divine, c'est l'intelligence qui va créer les formes. Littéralement, quand on dit les formes, c'est toutes les énergies dans le monde, les différents types de substances, jusqu'à la matière dense, physique. Donc si on utilise le terme nature dans son sens philosophique, hein, la nature qui représente le monde manifesté, c'est la mère de la nature. C'est le principe qui engendre. Comme une mère, d'ailleurs, engendre un enfant, hein, d'abord dans son ventre, puis après le met au monde. Donc c'est la symbolisation de la mère divine.
Alors dans l'animisme, on est très proche alors de ça, de cette notion.
Alors on peut dire que la religion animiste est en quelque sorte une religion de la mère divine. Et d'ailleurs, on a souvent un culte matriarcal qui est très présent dans les sociétés anciennes, primitives. On pense même qu'il y a eu des époques où le matriarcat était dominant par rapport au patriarcat. Et on a aussi des cultes lunaires plus que solaires. Là, on est plus dans une civilisation qui a des principes solaires, masculins. Il y a même des traditions, comme je pense au Japon, où le soleil est féminin et la lune est masculin. Enfin, masculine, hein. Donc on a vraiment un renversement chez les peuples souvent d'Orient et les peuples chamaniques, où le principe de la mère tend à être premier. On pensait même que la lune engendrait le soleil. Donc si on maintient la lune pour l'aspect féminin, qui est quand même la meilleure façon d'utiliser les symboles, et que le soleil représente le fils, la lumière qui vient au monde, hein, le fils représente l'univers qui se crée, qui naît. Donc la mère, la lune, représente le monde de la forme. Alors on sait que la lune agit sur le corps, hein, à commencer par le cycle menstruel de la femme, par exemple. Ceux qui étudient l'astrologie étudient la lune aussi, toujours sous cet aspect féminin. Mais la mère divine, donc, c'est celle qui nourrit, qui enveloppe, qui protège. Et souvent, les instructeurs spirituels féminins ont incarné cette énergie-là. Je pense à une indienne qui s'appelait Ma Anandamayi, qui était considérée comme un avatar, c'est-à-dire comme une incarnation de Dieu en Inde, et son nom signifie justement tout ce qu'on vient de dire. Ma, c'est la mère, Ananda, c'est la félicité, et Mayi, c'est le féminin de Maya, c'est la substance. Donc c'est la mère de la substance avec cette notion de félicité qui s'accompagne. Donc c'est une mère qui nourrit, qui enveloppe, qui protège, qui élève, qui fait grandir comme une mère qui élève son enfant. Et avec cette notion de joie, d'amour, d'affectivité, qui s'accompagne un peu de ses vertus maternelles, je dirais.
Alors les chrétiens eux, parlent de la Vierge Marie, est-ce que
Alors, typiquement, la Vierge Marie est une incarnation de la Mère divine. D'ailleurs, on disait, quand on parlait d'adombrement, que dans l'Évangile, il est question de l'adombrement de Marie par le Saint-Esprit. Donc, on peut dire d'une certaine manière, Marie, physiquement, en tant que femme, est l'incarnation du Saint-Esprit. Elle est adombrée, elle est pénétrée par le Saint-Esprit. Et donc, son enfant va être habité, enveloppé, nourri. Donc, on a le signe astrologique de la Vierge aussi, qui représente la naissance du Christ d'un point de vue spirituel. Le signe de la Vierge est un signe donc qui féconde spirituellement, qui éduque, qui accompagne, qui éveille. On le compare aussi aux femmes initiatiques telles que Isis dans la tradition égyptienne. Isis également initie. Donc c'est pas seulement une mère qui nourrit, qui protège physiquement, on peut le comprendre au niveau spirituel. Et le maître qui fut la Madone est un maître qui, dans ses manifestations, on pense à Medjugorje, à Fatima, à toutes sortes de manifestations, à la Vierge de Guadalupe. Il y a énormément d'exemples comme ça de manifestations de ce maître, de cet archétype, et c'est souvent accompagné d'une énergie de soutien, d'encouragement, de protection et aussi de grande dévotion. Donc je dirais la tradition chrétienne a sa propre mère divine et on va retrouver cette mère divine dans toutes les traditions.
Dans l'islam, alors qu'en est-il?
Alors parfois, Mariam, qui correspond donc à Marie, va et diviniser ou en tout cas élever un rang très très noble. Donc c'est quand même la mère d'Issa, de Jésus. Ou alors chez les chiites, on a Fatima, qui est la femme d'Ali, donc l'imam principal du chiisme. Et Fatima, c'est la fille du prophète. Donc Fatima va représenter une sorte d'archétype de double archétypal avec Ali. Ali Fatima va représenter une sorte de couple primordial parfois dans certains textes soufis. Donc on a aussi cette image du féminin. Et c'est intéressant de voir que dans la tradition juive, on a ce qu'on appelle la Shekhinah, qui a probablement la même origine que Shakti. Et la Shekhinah, c'est la présence de Dieu. C'est-à-dire quand on invoque Dieu, c'est un peu la descente du Saint-Esprit. Quand on lit la Torah, donc les textes sacrés juifs, on est censé invoquer, faire venir la Shekhinah, qui est parfois traduite dans la Bible par nuée. C'est intéressant, la nuée, une sorte de voile de présence qui se matérialise presque dans la pièce. Et le temple est censé être le lieu où on fait descendre la Shekhinah. Donc on a cette présence de la Shakti, de la Mère divine, dans toutes les traditions. Et aussi intéressant à noter que même la racine du mot Shakti, c'est la racine Shak, qu'on retrouve dans Shake. En anglais, ça veut dire vibrer, mettre en mouvement. Donc on voit bien que la mère divine anime, crée les formes, elle crée la vibration en fait. C'est la mère de toutes les vibrations.
Est-ce qu'on peut dire que le père est hors création et que la mère, c'est la création, l'aspect?
Le père crée l'impulsion pour la création et la mère crée proprement dit, produit, engendre. Donc l'union de cette volonté et du Père et de la Mère engendre le Fils, la lumière.
Bien, ben David, je crois qu'il va falloir qu'on achève cette émission, hein, le temps imparti s'achève. À bientôt pour un autre dictionnaire sagesse ancienne.
Merci Olivier, merci à tous et à bientôt.
Et bonne soirée sur IDFM.